Bienvenue au Petit Caractère, le balado de Options consommateurs qui pose un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Mon nom est Marianne Spire, je suis votre animatrice et aujourd'hui je suis en compagnie de Sébastien Boulris, avocat chez Options consommateurs. Bonjour Sébastien.
Bonjour ma chère.
Ça va bien?
Très bien, merci toi.
Oui, aujourd'hui on parle de le rôle d'un syndic en insolvabilité. Notre objectif c'est de faire la différence entre une proposition au consommateur et la faillite, c'est bien ça?
C'est exactement ça. Okay. Aussi un peu démystifier, c'est quoi le rôle du syndic en insolvabilité? Parce que les gens qu'on rencontre, nous, dans les consultations budgétaires, souvent ils se demandent à quoi il sert, c'est quoi ses devoirs, c'est quoi ses obligations. Ils sont un peu gênés de dire, ben d'être devant lui, de dire, est-ce qu'il va me donner les bonnes solutions, qu'est-ce qu'il va faire, à quoi je devrais m'attendre? Donc, on va regarder ça un peu sommairement ensemble.
Parfait. Puis, est-ce qu'on commence par ça?
On va commencer par les obligations. En fait, c'est quoi un syndic en insolvabilité? Il faut savoir qu'un syndic, c'est un officier de justice. Donc, même s'il travaille pour une entreprise privée, pour laquelle on sait que le but, c'est d'apporter de l'argent aux actionnaires, il est régi par un code de déontologie qui est inclus dans la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Donc, il doit obligatoirement donner les meilleures suggestions aux débiteurs, qu'on appelle débiteurs consommateurs dans ces situations-là, ou le failli quand on dépose une faillite. Donc, il va analyser votre situation et il doit vous recommander la meilleure. C'est toujours vous qui va prendre la décision au final. S'il dit ben la faillite, ça serait peut-être le meilleur choix. Si vous voulez faire une proposition de consommateur, c'est libre à vous quand même de le faire. Outre ça, il y a le devoir d'évaluer la situation et de vérifier l'inventaire des biens. Donc, à une première rencontre, je vous dis ça, là, souvent, on va avoir une rencontre quand on est dans une entreprise privée avec le conseiller en insolvabilité ou le conseiller en redressement financier, peu importe comment on va appeler cette personne-là, qui agit pour le syndic. Donc, le syndic, c'est vraiment, on va le voir quand on va signer les documents. Il doit s'assurer que le travail du conseiller a été bien fait.
Est-ce que le syndic, c'est une personne physique ou c'est le cabinet?
Le syndic, c'est une personne physique.
Ah!
Okay. C'est une personne physique avec une licence pour laquelle il y a plusieurs conseillers qui travaillent pour cette personne-là. Moi, ayant fait le travail auparavant, dans mon ancienne job, je l'ai vu. Donc, okay. Je l'ai fait et il doit s'assurer, le syndic, que chaque dossier est conforme. Donc, il revoit ce que le conseiller a fait. Donc, c'est le conseiller qui va vous dire c'est quoi la meilleure suggestion, mais le syndic doit vérifier et s'assurer que tout a été légal, que l'inventaire a été fait, que le budget a été fait, que tout est conforme.
OK.
Il doit aussi s'assurer que tout au long, là je m'avance un peu, on va le voir avec la faillite et la proposition tout à l'heure, il doit s'assurer que lorsqu'on dépose un dossier, donc ça c'était un peu avant les obligations du syndic, pendant un dossier, faut savoir que le syndic il a une double obligation. Le syndic, en réalité, il y a peut-être des gens qui diraient non, mais moi je vous le dis, il travaille pour les créanciers en soi. Donc, il doit s'assurer que les créanciers reçoivent le plus possible dans une faillite, surtout dans une faillite, dans une proposition, c'est une question de négociation, on va le voir. Mais en même temps, il doit s'assurer de protéger le failli. Protéger contre les saisies, protéger contre les appels des créanciers, protéger contre les agences de recouvrement. Donc, il est entre les deux.
Ouais.
Donc, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais le syndic travaille pour les créanciers, c'est en partie vrai, mais il travaille aussi pour vous. » Si jamais il y a quelqu'un qui vous contacte et vous êtes en faillite, vous contactez votre syndic, cette personne-là n'a pas le droit de vous contacter. Donc, c'est vraiment un double mandat qu'il a.
OK.
Également, lorsqu'on est en faillite, on donne nos droits au syndic, donc nos droits de possession, on va le revoir tout juste après, et il doit administrer les biens. Donc, si par exemple, là je parle si c'est un individu, mais on peut faire des faillites d'entreprise, il doit continuer d'exploiter l'entreprise pendant un certain temps aussi, il doit s'occuper de vendre des biens qui sont périssables ou
c'est
vendre des actifs. C'est le syndic qui fait ça.
Okay.
Le dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est surtout la rémunération des syndics. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je fais un chèque au syndic? Comment ça fonctionne? C'est sûr que ce n'est pas gratuit. Et on va voir dans la faillite, comme dans la proposition de consommateur, nos paiements, on les fait directement au syndic. Et c'est le syndic qui va s'occuper de redistribuer l'argent aux créanciers et en même temps prendre sa part. Et là, on entend souvent lorsqu'on va voir le syndic ou lorsqu'on voit les annonces, les honoraires des syndics sont tarifés par la loi. C'est vrai. mais on va voir plus tard un peu comment ça fonctionne.
Fait que si je comprends bien, le syndic, c'est une figure d'autorité, mais à la fin, c'est le client, le consommateur qui prend la décision.
Exactement. Le choix, faut dire que c'est le débiteur failli, le consommateur, là, qui prend la décision. On y va avec la faillite. Je sais que dans le niveau de dommages qu'il peut avoir au dossier de crédit, la faillite, c'est le pire. Hein? C'est un œuf, un peu comme les agences de recouvrement.
Bien, c'est ce qui fait le plus peur.
Et on est tenté de vouloir expliquer la proposition de consommateur en premier, mais c'est jamais le cas. C'est jamais comme ça que ça va se passer devant un syndic non plus. On va toujours regarder la situation en faillite en premier. C'est la base, c'est le pilier. Tout à fait. Parce que la proposition de consommateur, on va le voir plus tard, c'est basé entièrement sur la faillite. Donc, il faut regarder le dossier de faillite.
OK. Fait que c'est quoi une faillite?
Donc, la faillite, en fait, c'est le fait de transmettre, comme je l'ai dit un peu au départ, ses droits au syndic. C'est un peu la dernière porte de sortie qu'on a en se disant, je ne suis plus capable, j'ai des dettes, je ne sais plus comment administrer, je ne sais plus comment faire, je vais donner mes droits au syndic, lui va gérer ça pendant une période donnée et après ça, je vais pouvoir être libéré de mes dettes.
Okay.
C'est ça une faillite, grossièrement. Mm-hmm. D'accord? Donc, une fois qu'on a passé devant le syndic et que le syndic ou le conseiller en insolvabilité a analysé notre dossier, on va regarder la faillite et se dire, bon, mais quels sont les biens? On va faire un bilan, on va faire un budget, on va voir quels sont les biens que vous possédez parce qu'il y a un transfert de biens qui va être effectué. C'est certain qu'il y a des biens qui sont insaisissables. Donc, je pense notamment à des outils de travail. Si je suis sur la construction et j'ai des outils de travail, je ne pourrais pas me faire saisir ces biens-là parce que je ne pourrais plus travailler après ça. Okay. Donc, ça, c'est insaisissable. Des véhicules, si c'est nécessaire pour se déplacer pour une condition médicale ou pour l'éducation des enfants, il faut dire que c'est vraiment dans très peu de cas.
Okay.
Et quand on parle d'outils, un véhicule peut être un outil, mais on ne peut pas dire ben, « j'ai une Ferrari, je suis Uber, je garde ma Ferrari ». On va tempérer, le syndic va tempérer ça sur un moyen temps qui était
pas avec ça. J'ai 3-4 autos dans le garage,
ben,
une
c'est
pour
ça.
L'été décapotable, une pas décapotable.
C'est exactement ça. Donc, on peut avoir, et si on peut prendre l'autobus, c'est sûr que ça va être un choix. Donc, vraiment, il ne faut pas se dire « j'ai un véhicule, on a le droit de garder chacun un véhicule », c'est pas ça, là, c'est vraiment pas ça. Les biens pour pallier un handicap, les animaux domestiques, donc, pas saisissable. Tout ce qui est vase sacré, religieux, non saisissable. Les vêtements et les biens meubles d'une valeur de 7 000 $ par personne. Et quand on parle de 7 000 $, il faut se dire que pour un syndic, l'image, elle est différente d'un bien.
Okay.
Si nous, on vient d'acheter un réfrigérateur 1 000 $, pour le syndic, le temps d'entreposer ça, d'aller chercher ça... ça vaut vraiment moins. Donc, quand on calcule pour un syndic la valeur des biens meubles, c'est vraiment à la baisse. C'est vraiment moins que ce que les gens peuvent croire. Donc, c'est très, très rare qu'on rentre saisir les biens des gens.
Je comprends.
Donc, pour la faillite, on regarde les biens. À savoir, est-ce qu'il y a des biens qu'on peut prendre, vendre et donner le retour aux créanciers? Et c'est ça qu'on va voir, ben, est-ce qu'il y a de l'argent pour les créanciers? Ensuite, ce qui est le plus important, c'est de vérifier le revenu qu'on gagne. Le revenu net. Donc, j'ai un petit tableau qui est le tableau, en fait, du gouvernement, on appelle ça du BSF,
okay.
Qui est le Bureau du surintendant des faillites, parce que, comme je l'ai dit, c'est régi par le gouvernement fédéral.
Mm-hmm.
Et c'est lui qui établit les standards en matière de faillite. Donc, si on prend pour une personne le revenu net qu'on peut gagner selon le tableau du gouvernement, on parle ici de 2 543 net. Une faillite, pour une première faillite, ça va être 9 mois ou 21 mois, la durée de votre faillite. Et la durée de votre faillite, elle ne va pas être déterminée selon quel syndic on a devant nous, mais selon combien qu'on gagne net par mois. Donc, comme je vous l'ai dit, pour l'exemple, pour une personne à 2 543, si on gagne moins que ça par mois net, ça, c'est pour une famille d'une seule personne, donc pas de personne à charge, pas de conjoint-conjoint. Si on gagne moins que ça, c'est une faillite de 9 mois.
OK.
Si on gagne plus que ça, donc on gagne plus, on peut payer un peu plus nos créanciers, on va payer plus longtemps. Donc, c'est un peu à ça que sert la faillite. Hein? La faillite, c'est, le, c'est le dernier moyen. Donc, on va essayer de donner le plus possible aux créanciers avant de leur dire, après ça, vous allez faire une perte sur vos dettes.
Si on y va dans la logique des choses, si on est capable d'avoir un plan de remboursement qui est plus court que 9 mois, j'imagine que la faillite, c'est moins la solution.
Ça va dépendre de la lourdeur des dettes.
Okay.
Pour faire faillite, je dois le dire, il faut premièrement être insolvable. Et être insolvable, ça veut dire avoir au moins 1 000 de dettes. Et également, il faut être incapable de régler nos obligations. Donc, il faut être en retard. Si on est en train de payer on est en train de faire nos paiements et qu'on n'a jamais eu de retard, techniquement, on n'est pas insolvable.
Okay.
Bon, ça peut jouer si on voit que ça va prendre 100 ans à payer nos dettes. Le syndic pourra dire oui, on va déposer. C'est toujours sa licence et son analyse de la situation. Mais techniquement, il faut être en retard et c'est un cumul des deux. Donc oui, j'ai déjà fait des faillites de quelqu'un qui avait 8 000 de dettes. Ça se fait. Ça dépend du taux d'intérêt, ça dépend du revenu de la personne, ça dépend de ce qu'elle est à la retraite, l'aide sociale, tout ça. Donc, chaque cas est un cas d'espèce. C'est pour ça que le syndic, il faut qu'il analyse la situation.
Je comprends. Tu sais, comme aujourd'hui, même si je te posais plein de questions sur combien de dettes est-ce qu'on doit avoir pour faire une faillite, tu ne pourrais pas répondre parce qu'il faut vraiment voir la situation en détail.
Exactement.
La personne. Pas juste la situation financière, mais aussi comme la situation de vie. Puis...
Exactement, okay. Exactement. Pour passer un 21 mois rapidement, bien, si on gagne plus que le montant que j'ai nommé, qui varie selon si on a des personnes à charge, on va passer pour un 21 mois. Et là, pour un 21 mois, les paiements qu'on va devoir faire par mois, c'est 50 % de chaque dollar qui dépasse cette somme-là. Donc, si on dépasse de 500 par mois, la limite établie par le gouvernement, c'est 250 par mois qu'on doit payer pendant 21 mois.
Okay.
Et ça, peu importe le syndic qu'on va voir, c'est ça les paiements. C'est établi par le gouvernement. Par contre, si je reviens pour le 9 mois, ben, quand on est à un 9 mois, donc qu'on gagne moins que ce que le gouvernement établit, on appelle ça une petite faillite, c'est seulement les frais du syndic qu'on va payer. Et ça, ben, chaque syndic a ses frais qui sont tarifés. Les montants maximaux sont tarifés dans la loi, mais ils peuvent prendre moins que ça. Donc, si on pourrait magasiner à ce point-là, savoir si un syndic nous charge pour une faillite de 9 mois 2 000 peut-être qu'il y en a un qui va nous charger 1 800 peut-être. C'est les frais du syndic seulement. Donc, comme je dis, on peut magasiner, mais le syndic n'est jamais obligé de déposer le dossier non plus. Donc, c'est vrai que c'est tarifé, mais ce n'est pas un seuil minimum pour tout le monde.
Puis si c'est au-delà de 9 mois,
c'est les paiements par mois de 50 % de ce qui excède. Et ça, peu importe le syndic, ça va être le même montant.
Okay. Fait que si c'est moins de 9 mois, on a le paiement qu'on doit faire pour notre faillite, plus les frais établis du syndicat, qui peut être 2 000, qui peut être
800. Juste les frais du syndic. Il n'y a pas de paiement. Non, quand on est en bas du montant établi par le gouvernement, quand on est à 9 mois, il n'y a pas de paiement de base. C'est les frais du syndic, donc ça va être une entente avec le syndic.
Les
créanciers vont recevoir 0 $. Et ça, c'est important de comprendre avec les deux paliers, les paiements. C'est important de comprendre que la faillite, elle est basée sur votre capacité de payer et non pas la lourdeur de vos dettes.
Okay.
Donc, que vous ayez 10 000 de dettes, 9 000, 1 million, ça va dépendre de votre revenu.
Je comprends.
Des gens, des fois, qui sont fâchés en se disant « Mais la personne de 250 000, elle a payé moins pour ses dettes que moi pour ma dette de 50. » Mais ça dépend de votre capacité à payer.
Ouais.
C'est basé là-dessus. Plus on est capable, plus on va payer.
Mais ça dépend des engagements financiers que tu as déjà,
Ça dépend des gens qu'on a à notre charge, de l'unité familiale qu'on appelle. Ça dépend des revenus qu'on a, les biens qu'on a aussi. Également, pour une faillite, on est libéré automatique. Si on a respecté les obligations du syndic, donc de divulguer nos actifs, de vérifier nos revenus, parce qu'il va falloir que le syndic vérifie nos revenus tout au long de la faillite. Si nos revenus augmentent, le syndic va devoir prendre plus d'argent, et ainsi de suite. Ça fluctue dans le temps. Si tout s'est bien passé, on va être libéré automatiquement. Pas besoin d'aller devant un juge, rien. Un créancier pourrait s'opposer à notre libération, mais là, il faudrait avoir fraudé, avoir pas divulgué ses revenus. Donc, il y a des précisions dans la loi qui dit un créancier peut s'objecter à notre libération pour ces cas-là.
OK. Mais de la règle générale, c'est que tu es libéré automatiquement.
La règle générale, libération automatiquement. Donc, c'est pas quelque chose de très stressant. Et on le sait, donc, ça affecte le dossier de crédit pendant 6 ans, une fois qu'on est libéré de la faillite. Donc, 6 plus 9 ou 6 plus 21.
OK.
C'est bon, la faillite?
Oui, ça c'est clair pour moi.
Faut dire, avant que je pense pour, sur la proposition de consommateur, il y a des dettes qui sont non libérables. Et ça, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous, on peut regarder votre situation financière, mais on ne pourra jamais vous dire si votre dette elle est non libérable ou non. Le syndic va pouvoir le faire. C'est une de ses obligations également avant de vous faire faillite, savoir est-ce qu'on peut vous libérer de vos dettes.
Puis tu n'as pas d'exemple de dette.
J'en ai des exemples de dettes qui sont non libérables. J'en ai 5.
OK.
Les dettes de pension alimentaire. Mm. On a un arrérage de pension alimentaire. Jamais on va pouvoir se faire libérer de ce fardeau-là. Les dettes de fraude ou de fausses déclarations. On était sur l'aide sociale. On a reçu un chèque en trop, malgré qu'on avait dit qu'on avait recommencé à travailler. C'est un trop payé. C'est pas une fraude. C'est libérable. On a travaillé ce qu'on appelle en dessous de la table. On ne l'a pas dit. On a une dette cumulée. Finalement, on ne l'avait pas encaissé pour 10 000. Jamais on pourra se faire libérer de ça. Il va falloir le payer entièrement.
Okay.
Dommage pour lésions corporelles. Dette étudiante, si ça ne fait pas plus que 7 ans qu'on a terminé nos études. Okay. Et ça, c'est 7 ans sans jamais être retourné aux études. On retourne juste pour un petit certificat, ça recommence.
Fait que si quelqu'un fait faillite et a des dettes étudiantes, parce que écoute, j'ai entendu ça dernièrement, là, quelqu'un qui m'a dit qu'il avait vu un reportage puis qu'il pouvait juste déclarer faillite après avoir fini son université, là. Est-ce que tu peux quand même faire faillite, mais tu n'es juste pas libéré?
Exactement.
Puis le fait de ne pas être libéré, c'est quoi l'incidence?
C'est que, en fait, et on va le voir aussi avec la proposition de consommateur, les dettes non libérables vont rentrer dans la faillite.
Okay.
S'ils reçoivent de l'argent, ces créanciers-là, de la faillite, ça va être ça de moins à payer après quand on va être libéré. Mais ils vont revenir après ça. Les droits des créanciers reviennent quand la dette n'est pas libérable. Alors que pour les autres dettes, leur droit s'éteint. Donc, une carte de crédit, par exemple, de 5 000, on a fait faillite. Le droit de nous poursuivre ou de réclamer cette somme-là s'éteint par la faillite.
Okay.
Alors que les dettes étudiantes, si ça ne va pas plus que 7 ans, on a 10 000, on reçoit de l'argent. Après ça, ça revient. Le gouvernement pourrait cogner en disant « je veux une entente de paiement » ou « je saisis » ou peu importe.
OK, parfait.
D'autres petites, on a aussi tout ce qui est amende, pénalité, infraction. Donc, si on a une amende au code de la route, on n'a pas fait nos impôts, si les impôts, c'est libérable, mais les amendes, les pénalités qu'on nous met à chaque fois qu'on ne les fait pas, ça, c'est non libérable.
Okay.
Donc, c'est celle que je voulais mentionner ici.
Alors maintenant, la proposition au consommateur.
Oui, la proposition du consommateur, comme on a regardé le dossier de faillite, on sait combien les créanciers recevraient dans une faillite. La proposition du consommateur va être basée sur ça. Donc, on se dit, parfait, exemple, en faillite, on recevrait... Les créanciers recevraient 10 000 $ j'ai 50 000 de dettes, je ne veux pas faire faillite, je vais leur offrir 20 000. Je ne fais pas faillite. En faillite, ils recevraient nécessairement moins qu'en proposition. Moi, je leur offre un petit peu plus et je ne fais pas faillite. Il faut se dire que la proposition de consommateur, elle est basée sur un maximum de 5 ans. On ne peut pas aller plus loin que ça. Ça va permettre de diluer le paiement, faire des paiements moins élevés, même si la dette, le montant va être plus élevé. Il n'y a aucune saisie dans une proposition de consommateur. Donc, le syndic n'a pas vos droits. Il va vous protéger, il va s'assurer que personne ne vous contacte, mais il ne peut pas saisir vos biens. Il a déjà évalué ce scénario-là en faillite, ce qui faisait un total de 10 000. Donc, on a fait la proposition basée sur s'il y avait eu des saisies en faillite.
Okay.
Tu me suis?
Oui.
Donc, c'est important de comprendre pourquoi il n'y a pas de saisie en proposition de consommateur. C'est pas automatique. Les créanciers vont voter sur votre proposition de consommateur, à savoir est-ce qu'on l'accepte ou non. 1 $, c'est un vote. La majorité l'emporte. Donc, s'il y a des gens qui disent non, mais que 51% ont dit oui, tout le monde rentre dans la proposition de consommateur.
Okay.
Et bien entendu, on ne peut pas sélectionner des dettes qu'on met dans une faillite ou en proposition.
Mm-hmm.
C'est toutes les dettes.
Je comprends.
Si ça fonctionne, ben on ne doit plus nos dettes, on doit le montant avec lequel on s'est entendu.
OK.
Et ça fait en sorte que vu que le syndic n'a pas nos droits, si on gagne des sommes d'argent durant la proposition, c'est à nous. Alors qu'en faillite, si on reçoit un héritage, si on gagne à la loto, cette somme-là appartient au syndic.
Ah oui, pendant la faillite.
Pendant la faillite.
Oh
en proposition
God.
De consommateur, okay. Si vos revenus augmentent, c'est tout à vous, ces sommes-là.
Puis, petite question, mettons, une assurance vie insaisissable, est-ce que c'est le syndic qui...
Il y a des biens qui sont insaisissables, donc des assurances vie, si la prime... donc, ça dépend c'est qui les bénéficiaires. Donc, tout ça, c'est un peu plus complexe. Je n'entrerai pas dans ces détails-là, mais c'est le genre de choses que le syndic va devoir analyser quand il va regarder la faillite, à savoir est-ce qu'il y a des polices qui sont saisissables ou non, ces choses-là. Mais sinon, les montants en soi vont être saisissables en faillite parce que le syndic a vos droits. En proposition, c'est autre chose. Donc, si vos revenus sont portés à augmenter, peut-être mieux d'aller opter pour une proposition de consommateur. Il faut également qu'elle soit meilleure que la faillite. Le syndic, dans ses obligations, ne peut pas soumettre aux créanciers une proposition qui est moins bonne pour eux qu'en faillite. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours regarder le dossier de faillite et ensuite regarder le dossier de proposition de consommateur. Et dans la proposition de consommateur, comme c'est une entente, après ça, on fait nos paiements. C'est comme un petit prêt, pas à 100% de nos dettes, et c'est ouvert. On peut le payer en avance après ça. Okay. On a 20 000 à payer, par exemple, on s'est entendu là-dessus. On fait des paiements par mois. Et après ça, on peut le payer en avance si on veut. Le syndic va toujours prendre sa portion. Il n'y a jamais d'intérêt. Tout est inclus dans ces paiements-là.
OK. Fait que ça, quand on est rendu un peu perdu dans ses dettes, ça permet une plus simple gestion. Mais j'imagine qu'il y a des aspects vraiment négatifs à la proposition du consommateur aussi.
L'impact au dossier de crédit. On va avoir un impact négatif à notre dossier de crédit pendant 3 ans. Une fois que la proposition de consommateur, elle est terminée. Okay. Si on prend les 5 ans, 5 plus 3, si on paie à l'avance, mais si on paie en 2 ans, c'est 2 ans plus 3 ans.
OK.
Donc,
fait que ça reste vraisemblablement dans les mêmes délais que la faillite, finalement.
Oui, mais ce n'est pas... L'impact n'est pas pareil. Parce qu'après ça, une deuxième faillite, ça va rester 14 ans en dossier de faillite. Puis la durée, c'est 2 ans ou 3 ans, alors qu'une proposition, on peut en faire comme on veut. Pas trop, il ne faut pas en faire trop, mais ça n'a pas l'impact que la faillite a à long terme, donc sur notre vie. Et après ça, une troisième faillite, on est obligé de passer devant le juge, donc devant la cour pour être libéré, donc toujours moins plaisant ça aussi.
OK. J'aurais une dernière question pour toi, la question qui tue. Est-ce qu'on doit attendre d'être vraiment serré financièrement puis de ne plus voir le bout pour appeler le syndic en insolvabilité?
Je voulais donner quelques trucs et astuces de choses qu'il ne faut pas faire avant ou de bien se préparer. Faut pas attendre d'être au bout. En même temps, faut pas avoir abusé. Par exemple, on peut pas prendre une carte de crédit, la vider, tout de suite aller faire faillite. Ça fonctionne pas comme ça. Ça va être assimilé à de la fraude.
La remplir, tu veux dire?
Oui, c'est ça, okay, la remplir, la maximiser, comme avoir utilisé le maximum de sa capacité. Okay. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas non plus décider de transférer tous nos biens avant de le faire. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Maintenant, ça ne veut
puis
pas dire...
c'est retraçable pour
exactement,
un syndic.
Exactement, le syndic va enquêter, c'est retraçable. Et sinon, les créanciers vont le voir venir et s'opposer à une libération. Okay. Donc, il ne faut pas faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir vidé complètement tout ce qu'on a avant de faire faillite. Si on a vu qu'on a essayé, ça n'a pas fonctionné, c'est le temps de prendre une rencontre, soit avec un conseiller budgétaire avant, et après ça, d'aller voir un syndic et dire « c'est quoi mes options? » Le syndic va vérifier, il va vous dire « c'est quoi votre meilleure option selon lui? » Et là, et c'est pour ça que c'est pas le temps de vendre nos biens, de se débarrasser de tout avant. Sinon, le syndic va vous le dire, par exemple, « oui, je saisirais tel bien. » Donc, on n'est pas obligé de signer là, on peut essayer de les vendre nous-mêmes, faire un petit peu plus d'argent, les donner à nos créanciers. Donc, prendre l'information, prendre un temps de recul et après ça, signer si on est prêt.
Okay. Parce que si on met le pied dans un syndic ou on appelle un syndic, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on sort de là avec une faillite ou une proposition.
Pas du tout.
Ça se peut qu'ils nous disent « on se reparle dans 6 mois, fais ce plan-là » ou…
Dans le fond, c'est vous qui décidez. Lui, il va vous dire « voici les options, voulez-vous signer, êtes-vous prêt? » Vous n'êtes pas obligé d'être prêt là, vous pouvez attendre comme vous voulez. C'est certain que si vous attendez 1 mois, 2 mois, il va falloir que le syndic revérifie, parce que c'est son but de revérifier. Il y a peut-être des biens qui ont disparu.
Toujours si vous n'êtes pas insolvable, il va vous le dire aussi.
Il va vous le dire
aussi. Parce qu'on s'entend des fois, on ne le sait pas, là, on sort de l'école ou on sort d'un divorce ou autre, puis on n'a jamais eu des situations financières complexes comme ça, puis on pense qu'on est insolvable, mais on ne l'est pas. Ben, merci beaucoup pour ces informations-là, Sébastien.
Ça fait plaisir.
Donc, on continue dans le thème de réduire ses dettes ou la gestion de dettes, cette fois-ci avec Joanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Options Consommateurs. Allô, Joanne.
Allô, Mariam.
On vient de parler avec Sébastien de la proposition consommateur, de la faillite. Toi, de quoi tu voulais nous parler?
J'ai parlé de comment négocier une dette. T'sais, dans quel cas on peut le faire, dans quel cas on ne peut pas le faire. Ou, d'apprendre à mieux se situer par rapport à une dette. La première étape, c'est de réaménager son budget. On a coupé ses dépenses, puis on a réduit certaines sorties, on a fait des choix.
Faire une consultation budgétaire.
Voilà. Mm. Et si malgré tout, on a de la difficulté, puis là, on veut réduire son endettement, puis on ne sait pas trop comment s'y prendre, une des façons de pouvoir procéder, ça peut être d'aller négocier la dette. On peut aller rencontrer les créanciers et prendre les devants, être proactif, pas attendre que la situation se dégrade et qu'on brise le lien de confiance avec le créancier qu'on a.
Puis quel résultat on peut avoir d'une négociation avec un créancier?
Bien là, il y a toutes sortes de possibilités qui peuvent se présenter. Tu sais, les objectifs possibles, dans le fond, ça va être soit d'essayer d'étirer les paiements sur une période plus longue, ça peut être d'essayer de négocier les intérêts, de réduire les intérêts, ça peut être aussi de retarder un paiement, puis de rattraper le remboursement de ce paiement qui a été sauté sur quelques mois, c'est de se créer de l'espace là, dans son budget. Ça peut être aussi parfois de négocier une réduction de la dette. Ça, habituellement, quand on fait ça, par contre, c'est pas de l'étaler là, sur plusieurs mois, mais ça peut être aussi une possibilité de dire, ben voilà, je te dois X montant, je vais te rembourser 80 % mais je le fais maintenant.
OK. Puis je vois dans ton document de préparation que tu as marqué des écrits, s'il vous plaît. Que veux-tu dire?
Oui, si jamais vous arrivez à conclure une entente avec un créancier, essayez d'avoir des preuves écrites de ça. La première possibilité, c'est d'y aller tout à fait ouvertement puis de proposer une entente qu'on va signer. On écrit les termes de notre entente, un peu comme un contrat, et on la signe tous les deux. Ça, c'est la meilleure option. Dans le cas où c'est pas possible, essayez au moins d'avoir des échanges écrits. Avec les courriels, c'est relativement facile de dire, ben voilà, suite à notre discussion, voici les critères que nous avons établis. Pouvez-vous me confirmer que c'est bien ça l'entente qu'on a? L'échange courriel va faire office de preuve de la discussion, de l'entente que vous avez établie tous les deux.
Par exemple, que je parle à quelqu'un au téléphone, à quelqu'un qui peut représenter mon créancier, puis qui me dit « OK, oui, on peut faire ça. » Moi, ça serait quand même un bon réflexe à la fin de dire « Parfait, quelle est votre adresse courriel? » Puis d'y envoyer un résumé de ce qu'on vient de se dire.
C'est exactement ça.
Ce serait quoi tes autres trucs pour la négociation de dette?
Bien, je pense qu'il y a deux choses. Il faut savoir s'évaluer soi-même puis évaluer son créancier. Alors, si on prend la première chose, au niveau de s'évaluer, je vais revenir au fameux budget, on fait son budget, on regarde c'est quoi les liquidités qui sont disponibles, c'est quoi notre marge de manœuvre avant d'aller négocier avec un créancier. Si je connais pas ma marge de manœuvre, je suis susceptible de proposer une entente que je ne pourrais pas respecter.
Ça, c'est pas bon pour la relation de confiance avec le créancier.
Exactement, c'est ça. T'sais, on est toujours dans entretenir une relation de confiance avec le créancier. C'est normal, moi, si je prête des sous à quelqu'un, la personne ne me rembourse pas, après, mon réflexe, c'est je vais être moins pressée de lui en prêter si je vois que la personne est dans le besoin. Ben, le créancier, c'est la même chose.
Mais si la personne, elle vient te voir puis elle dit « Écoute, en ce moment, j'ai telle situation qui se passe, je sais que c'était ça notre entente au départ, mais j'aimerais peut-être la revoir parce que c'est important pour moi de te rembourser. » mais je dois manger.
Ben voilà, t'as tout compris, c'est exactement ça. Tu sais, c'est votre créancier, c'est des humains aussi là, hein, qui sont là puis qui sont souvent très tout à fait apte et capable de comprendre la situation que vous vivez. Puis, vous venez pas demander, là, je vais effacer ma dette. Mais non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est je veux la rembourser, mais pour le moment, selon les termes actuels de notre entente, c'est difficile. Y a-tu moyen de regarder une solution pour que je puisse te rembourser, que ça soit peut-être soit un petit peu plus long ou un petit peu moins élevé ou on change un petit peu les trucs au niveau des intérêts, tout dépendamment du type de créancier qui est devant vous. Alors, pour continuer d'évaluer sa situation, pour savoir un peu c'est quoi la perception que le créancier va avoir de vous, Ce qui est important de savoir, c'est si vous avez un bon dossier de crédit, évidemment, votre valeur est, tu sais, la relation de confiance risque d'être un peu plus grande par rapport au créancier. Si c'est soit une entreprise ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est certain qu'il va aller, s'il y a accès, il va aller vérifier. Puis ça fait partie des balises là, qu'il va avoir pour évaluer votre proposition. Ensuite, si vous avez un emploi qui est stable, qui est syndiqué, ou un poste que vous occupez depuis longtemps, ben ça, c'est des éléments qui démontrent votre stabilité. Ça met en confiance le créancier. Donc, c'est de savoir d'évaluer sa propre valeur par rapport au créancier, puis comment lui est susceptible de me percevoir si moi je lui propose une entente. Est-ce que je risque de lui faire peur un peu, là, tu sais? Mm-hmm. Fait que c'est d'appuyer aussi sur ces éléments-là. Ça devient des éléments de négociation. Voilà, j'occupe cet emploi-là depuis X nombre d'années. Je suis une personne fiable. Vous pouvez aller vérifier mon dossier de crédit. Ça peut devenir des arguments pour vous aider à établir, à entretenir votre confiance auprès de ce créancier-là.
Parfait.
Ensuite, avant de faire une proposition, évidemment, il faut évaluer son créancier pour savoir à peu près quel type de proposition je peux faire à ce créancier-là plutôt qu'à un autre. On reste toujours poli, même si on peut avoir certaines frustrations à l'égard de certains créanciers. La façon dont on s'adresse à eux est toujours importante. On essaie de toujours soutenir une belle relation avec les personnes, peu importe qu'est-ce qui se passe. Ensuite, le type de dette. Si c'est avec une agence de recouvrement ou un autre type de créancier, là, il y a certains critères qu'on va prendre en compte pour évaluer sa situation par rapport à ce créancier-là.
Okay.
Par exemple, l'ancienneté de la dette. Ça ne se négociera pas de la même façon si c'est une dette récente versus une dette qui traîne depuis plusieurs années.
OK.
Une dette qui est récente, normalement, au moment, si c'est récent, ça fait quelques mois, puis que votre situation n'a pas changé, c'est normal que le créancier s'attende à ce que vous continuiez à respecter les termes de l'entente que vous avez eue avec cette personne-là ou cette entreprise-là. Mmh. Si c'est une dette qui est là depuis plus d'un an, il peut y avoir, puis ça je l'ai pas dit en tout début, mais un créancier n'a aucune obligation légale d'accepter votre proposition quand vous négociez une dette. Il est toujours libre de le faire ou pas. C'est pour ça que je vous dis d'entretenir une belle relation, une relation de confiance, ça devient important parce qu'il n'est pas obligé d'accepter votre proposition. Donc, si c'est une dette qui existe depuis plus d'un an, il peut y avoir une marge, avec une agence de recouvrement, il peut y avoir une possibilité de négocier le montant de la dette, puis de le réduire, par exemple, à 80 %. Il n'y a pas l'obligation, mais ça peut être une possibilité. Vous pouvez essayer. Si c'est une ancienne dette dont le délai de prescription est dépassé, ben là, à ce moment-là, vous avez plus de manœuvres pour réduire l'entièreté de la dette. Ça, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 50 % de la dette.
OK. Fait que dans le cas où une agence de recouvrement nous contacte puis que c'est une dette qui est vraiment ancienne, parce que souvent, c'est un peu ça, là, les compagnies vont faire affaire avec une agence de recouvrement.
Généralement, avec les agences de recouvrement, c'est ça qui arrive. Puis le délai de prescription pour une dette, il y a quand même certains critères, là, mais pour la plupart des dettes, là, c'est environ 3 ans.
OK.
Fait que passer ce délai-là, vous avez toujours la dette, mais ce que ça veut dire, c'est que passé 3 ans, le créancier a plus de recours possible devant les tribunaux pour pouvoir vous poursuivre, récupérer son argent, son dû.
OK.
L'autre critère que le créancier est susceptible de regarder aussi, c'est votre revenu. Ça se négocie pas de la même façon si vous avez un faible revenu versus un revenu moyen à élevé. Mm-hmm. Si vous avez un faible revenu, ça se peut que le créancier soit un petit peu plus enclin à à réduire l'ampleur de la dette pour vous donner une chance, sachant que ça va être plus difficile pour lui de toute façon de récupérer la totalité du montant.
OK. Le montant de la dette, j'imagine aussi que ça a un impact.
Oui, tout à fait, le montant de la dette. Puis pour le revenu, c'est sûr qu'une personne qui a un revenu qui est moyen à élevé, ben, il y a une partie de son salaire qui peut être saisissable. Fait que le créancier, il sait qu'il y a cette option-là aussi qui est là. Fait qu'il va être moins susceptible de réduire le montant de la dette.
Puis sinon, pour des dettes au gouvernement avec Revenu Québec ou
là, c'est pas la même chose. Ce sont des créanciers, d'ailleurs, qui ont des pouvoirs qui sont pas qui sont plus grands. Ils ont des pouvoirs de recouvrement qui sont plus grands que la plupart des autres créanciers. Puis là, il y a des obligations légales aussi qui rentrent. Si c'est une dette d'impôt pas payée, par exemple, ben chaque citoyen canadien a l'obligation de payer ses impôts. Si vous avez des difficultés, vous pouvez prendre des ententes de paiement, les échelonner. Parfois, ça peut être dans certaines situations, ça peut arriver que on peut réduire certaines pénalités qu'on a eues, de réduire certains intérêts qui nous ont été chargés, mais c'est très, très rare, en fait. J'aimerais quand même parler des dettes avec Hydro-Québec, okay. Parce que Hydro-Québec, c'est important. Sachez que si vous avez une dette avec Hydro-Québec et que vous êtes en situation de difficulté financière, vous pouvez toujours venir voir un conseiller budgétaire chez Options consommateurs ou dans chacune des ACEF. Il y a les députés aussi, les bureaux de députés qui peuvent vous aider pour négocier la dette. C'est possible là, d'obtenir de très, très bonnes ententes, cool, de remboursement. C'est possible aussi avec les municipalités, si vous avez cumulé beaucoup de contraventions, de pouvoir, si vous êtes incapable de les payer, il y a moyen de s'organiser là, avec des travaux communautaires puis d'avoir des ententes de remboursement. Ça aussi, c'est important à savoir. Puis sinon, je reviens à ce message-là, tu sais, de faire attention, d'essayer d'éviter l'évitement. Quand vous voyez que vous avez des difficultés, allez-y, prenez les devants. C'est ça qui va démontrer votre bonne foi puis votre volonté de vouloir en arriver à une entente.
Excellent. Ben merci beaucoup, Joanne, d'avoir été parmi nous. Merci aux auditeurs. Si vous avez des questions, des commentaires, ben je vous invite à rejoindre Options consommateurs sur leur site Internet, options-consommateurs.org, à la section « Nous joindre ». Sinon, je vous souhaite de passer une belle soirée ou une belle journée, puis à la prochaine.